Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 7 janvier 2025. On vous souhaite en préambule à tous et toutes une bonne année qu'on espère pleine de bonnes choses, de sérénité on va essayer, et la santé surtout, comme on dit chez ma boulangère. Alors on commence sans plus tarder avec une petite info qui nous est arrivée dans la boîte mail de Radio Escapade ce matin et qui concerne les fermetures de classes prévues pour l'école de Saint-Jean-du-Gard où une bataille locale a donc lieu par rapport à des menaces de fermeture de classes. Malgré la baisse des effectifs scolaires dans le Gard, les parents d'élèves donc de Saint-Jean-du-Gard s'opposent toujours fermement à la fermeture annoncée de deux classes pour la rentrée prochaine. Et hier matin, eh bien, ils étaient donc pour cette matinée de rentrée toujours mobilisés devant les grilles de l'école. Malgré la pluie, donc des villageois et des retraités sont venus aussi leur prêter main forte, ainsi que le maire de la commune et une conseillère municipale. Ils se disent toujours aussi déterminés en vue de la rencontre qui est prévue avec le DAZN, donc la direction de l'éducation nationale. Une rencontre prévue ce vendredi avec 6 parents pour tenter de négocier et d'éviter donc la fermeture de ces deux classes. On espère en savoir plus donc la semaine prochaine. Une catastrophe écologique, ce sont les mots du président russe Vladimir Poutine. Il s'adressait en effet ainsi aux médias par rapport à de nouvelles traces de pollution qui ont été détectées et un état d'urgence régional qui a été annoncé suite à cette marée noire qui s'étend toujours dans le détroit de Kerch. On est entre la Russie et la Crimée, c'est un territoire ukrainien qui est occupé depuis 2014. Cette marée noire s'étend au point donc que l'état d'urgence régional a été déclaré. Cette décision a été prise notamment suite à la détection de pétrole sur la côte de Sébastopol, donc on est 300 km à l'ouest du détroit de Kerch où a eu lieu le naufrage de deux navires pétroliers russes. C'était avant les vacances, hein, je vous en avais déjà parlé. C'est le 15 décembre qu'a eu lieu ce naufrage à cause d'une tempête. Une marée noire donc depuis se déverse. Près de 96 000 tonnes de terre et de sable contaminées ont déjà été déblayées sur l'équivalent de 68 km de côte. Ce sont des chiffres du ministère des situations d'urgence. Des milliers de bénévoles nettoient les plages et l'opération risque de se prolonger. La marée noire pourrait polluer jusqu'à 200 000 tonnes de sol et le type de pétrole déversé qui est du fioul lourd de qualité M100. C'est un pétrole qui est plutôt réputé pour couler plutôt que pour flotter. Donc c'est le fond du plancher marin qui risque d'en pâtir. À côté de cela, une trentaine de cétacés ont déjà été retrouvés morts. Leur décès est très probablement lié à la marée noire, complète l'ONG russe Delpha sur son canal Telegram. Sur les 9200 tonnes de mazout transportées par les pétroliers, 2400, donc presque un quart, se seraient déjà déversés dans la mer, selon les chiffres de l'agence de presse britannique Reuters. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Et c'est la quatrième année de suite que cela fait justement la une et les titres de la rentrée. Cette hausse des températures qui a atteint 2,2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels dans 111 pays pour lesquels on a les données, eh bien cette hausse représente près de la moitié de la population mondiale. Ça a amplifié d'ailleurs tant les sécheresses que les inondations, avec des conséquences dramatiques, comme l'ont rappelé les inondations dévastatrices d'octobre dernier, par exemple en Espagne à Valencia, avec 500 mm de pluie tombée en seulement 8 heures. C'est un des principaux enseignements du rapport Global Weather Monitor qui a été publié hier le 6 janvier. Plus de 8700 morts et 40 millions de déplacés ont ainsi été à déplorer au cours de l'année, tandis que les pertes économiques mondiales liées à ces sinistres, elles, dépassaient les 550 milliards de dollars. Les records de précipitations ont, eux, augmenté de 27%, tandis que les records de sécheresse ont bondi de 38%. Dans un article qui a été publié dans le journal The Conversation, Albert Van Dijk, qui est auteur de cette étude, explique que l'eau, ressource essentielle, est au cœur des menaces climatiques majeures. Pour lui, la réduction urgente des émissions de gaz à effet de serre et l'élaboration de stratégies d'adaptation sont désormais des priorités pour limiter le ravage des catastrophes liées à l'eau. Bien justement, à la suite de plusieurs recours d'ONG environnementales et de défense des animaux, le Conseil d'État a confirmé, c'était lundi 30 décembre, la nécessité d'une fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne pendant 4 semaines, du 22 janvier au 20 février, pour tous les navires de plus de 8 mètres. Cette mesure avait déjà été mise en place l'hiver précédent, sera reconduite pour 2026. C'est une nouvelle donc décision de la plus haute juridiction administrative qui confirme ainsi la nécessité d'une fermeture de la pêche pour protéger les dauphins et les marsouins communs dans cette zone. Les juges administratifs estiment que ces 4 semaines seront suffisantes et pour l'instant ne requièrent pas l'allongement de la durée de la fermeture de pêche pour le golfe de Gascogne. Ils ne requièrent d'ailleurs pas non plus l'extension aux navires de moins de 8 mètres. Ils ordonnent en revanche que les sennes pélagiques, ce sont des filets rectangulaires utilisés en surface, soient eux ajoutés à la liste des filets interdits sur la période. Les dernières observations scientifiques pour la période hivernale révélaient ainsi une baisse significative de la mortalité des petits cétacés par capture accidentelle. Lors des mois de sans pêche, au début de l'année 2024, les captures mortelles de dauphins dans le golfe de Gascogne avaient en effet diminué de 75%. Donc ce sont des mesures qu'on peut qualifier d'efficaces. Quid de la protection des humains, eux, aux PFAS, les fameux PFAS, polluants éternels. Eh bien, on va parler de la protection des salariés qui sont exposés à ces polluants éternels, notamment ceux qui travaillent dans les usines, et il y en a plusieurs dans le Gard. Eh bien, la CGT vient de lancer le collectif PFAS. On ne peut pas laisser les industriels être leurs propres gendarmes. C'est en gros ce qu'affirme le syndicaliste Jean-Louis Perrenne, qui a été interviewé donc dans cet article de Bastamag pour justement illustrer et expliquer le lancement de ce collectif PFAS. C'était hier qu'a été officiellement lancé donc, ce collectif. C'est une première dans le monde syndical qui est plutôt frileux sur le sujet des polluants éternels. Ceux-ci sont omniprésents dans nos produits du quotidien, que ce soit les poêles de cuisine, les cosmétiques, les emballages alimentaires, etc. Et ils sont toxiques pour l'humain. Ce nouveau donc, collectif PFAS sera coordonné par le Jean-Louis Perrenne, qui est, je vous le disais, secrétaire fédéral à la Fédération nationale des industries chimiques de la CGT, en charge justement des questions santé-travail. Dans cette interview, il explique en effet que les premiers concernés sont les salariés qui fabriquent donc ces PFAS, les utilisent dans le cadre de leur travail en tant que matière première. Alors on peut se dire que le collectif arrive un peu tard, mais il explique que c'est un sujet difficile à porter en tant que syndicaliste dans une entreprise. Puisqu'en effet, les patrons, les employeurs disent que si vous faites trop de bruit, on sera obligé de fermer et vous perdrez votre emploi. Le salarié ainsi qui va questionner l'impact de ces PFAS sur la santé et l'environnement deviendrait presque responsable de la fermeture de l'entreprise. Alors, rappelle ce syndicaliste que les responsables, ce sont bien les pollueurs. Les salariés en finissent par avoir plus peur de perdre leur emploi que leur santé, et il estime qu'il est temps que les peurs s'inversent. Lorsque vous fabriquez un produit, vous y êtes exposé tous les jours, surtout que les salariés sont mal protégés. Nos employeurs, explique-t-il, préfèrent aller vers des protections individuelles, par exemple des masques, plutôt que des protections collectives, comme une hotte aspirante. Or, les protections individuelles ne sont pas les plus efficaces. Quand on est sur un poste qui peut être considéré comme exposé à des matières toxiques, on porte un masque, mais pas les personnes qui sont et qui gravitent autour, alors que la hotte, elle, protégerait l'ensemble des salariés. Par ailleurs, il revient aussi sur ce que la législation a mis en place, à savoir les valeurs limites d'exposition professionnelle. Pardon. Ce sont donc des valeurs limites, mais tout cela n'empêche pas d'être au contact de ces produits tant qu'on reste en dessous des valeurs limites. Et en plus, il rappelle que ces valeurs sont établies produit par produit, donc des données en laboratoire, et ce, pas à l'échelle de l'entreprise. Ainsi, si l'entreprise fabrique plusieurs produits différents, l'effet cocktail n'est pas pris en compte dans ces études. Et donc, quelles sont les réactions des employeurs à cette demande de meilleure protection des salariés ? Eh bien, il explique que quand on voit la levée de boucliers des industriels face notamment à une proposition de loi d'interdire les PFAS, ou par exemple que l'entreprise Tefal continue à affirmer que la substance qui a remplacé le téflon dans ses poêles n'est absolument pas dangereuse pour la santé. Donc ça s'appelle maintenant du PTFE. Donc on trouve même sur le site Tefal que ce PTFE peut être ingéré de façon accidentelle. Comment, dit-il, voulez-vous que l'entreprise pense à protéger ses salariés ? Il rappelle d'ailleurs que le patron de Tefal avait, au mois d'avril dernier, réuni les salariés syndicale qui était sous l'étiquette syndicale Force Ouvrière et la CFDT devant l'Assemblée Nationale pour que ceux-ci disent que le téflon n'est pas si dangereux que cela. La proposition de loi, d'ailleurs également approuvée par le Sénat, a en effet ainsi exclu les ustensiles des cuisines de l'interdiction des PFAS, principalement pour sauver notamment l'entreprise Tefal. La situation explique-t-il est donc très grave. Et au final, comment protéger donc la santé des salariés ? Pour lui, la réponse est simple, il faut interdire les PFAS, les polluants éternels. On ne va pas continuer à fabriquer un produit dangereux simplement pour alimenter l'économie et faire travailler des personnes. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut les remplacer. Quelles analyses permettraient d'évaluer l'exposition des salariés ? Certaines ont été faites chez les salariés de Arkema, le géant de la chimie avec notamment des grosses usines vers Lyon. Des PFAS ont ainsi été retrouvés en grande quantité dans le sang de certains salariés. Mais il y a deux problèmes. Tout d'abord, le fait que ce soit l'entreprise elle-même qui choisisse les laboratoires d'analyse. Pour des questions de transparence, ce collectif PFAS demande à ce que ce soit aux organismes externes de les analyser. La médecine du travail, par exemple, pourrait faire des prises de sang et choisir les laboratoires. On ne peut pas laisser les industriels faire leur autocontrôle et être leurs propres gendarmes. Par ailleurs, une fois qu'on a fait ces analyses et que vous avez une quantité de PFAS mesurée dans le sang, eh bien, il est très difficile d'avoir des réponses valides au niveau médical. On peut vous dire tout et son contraire. Certaines études disent que c'est dangereux, d'autres non. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas, à l'échelle de l'Union européenne, d'interdiction générale de ces PFAS. Et ainsi, la majorité des quelques 12 000 PFAS qui sont aujourd'hui recensés passent sous les radars. À un moment, donc, explique-t-il, il va falloir appliquer le principe de précaution, les lister et les reconnaître, faire reconnaître par l'État qu'ils sont dangereux et ainsi peuvent provoquer des maladies. S'il est reconnu et admis qu'ils provoquent des maladies, on pourra alors faire appliquer le Code du travail qui explique bien clairement que l'employeur est responsable de la santé de ses travailleurs et ainsi faire évoluer le tableau des maladies professionnelles. Dernier point abordé dans cette interview, je vous le rappelle, le porte-parole du collectif PFAS qui est Jean-Louis Perrenne. Quel est donc le but de ce collectif ? Tout simplement, c'est de s'organiser, de travailler ensemble, car rappelle-t-il que la CGT regroupe de nombreuses branches et métiers. Les syndicats, par exemple, des entreprises Arkema et Solvay, une autre usine chimique, devraient en faire partie, mais aussi des syndicats de la métallurgie, la Fédération de la Métallurgie aussi, l'Union départementale 69, donc dans le Rhône, et celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ce sont quand même des régions et des parties de France où on est très très exposé à cette chimie. Ils vont essayer également de travailler avec des associations écologistes et des associations de riverains, avec des organismes comme le CNRS ou l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, en commençant par exemple par faire une cartographie des plus fortes expositions aux PFAS pour les comparer aux valeurs limites d'exposition et informer les salariés que même quand les seuils ne sont pas dépassés, il peut y avoir un danger. Faire savoir d'ailleurs que ces valeurs ne sont pas une autorisation à polluer et à mettre en danger ses salariés. Bref, tout est à faire et à construire. Et il termine avec ces phrases. Nous sommes comme en 1906 quand le premier médecin a dit qu'il y avait un problème avec l'amiante. il a fallu attendre 1996 pour qu'elle soit interdite en France. Et on continue ces nouvelles du monde avec une petite analyse piochée. Là, c'était Sébastien Magossier, je crois, qui s'intéresse à la réforme de France Travail, anciennement Pôle emploi. Ça a commencé ce 1er janvier 2025, une réforme décriée et attendue, qui avait d'ailleurs été repoussée, avec elle les fameuses 15 heures d'activité obligatoire, notamment pour les allocataires du RSA, mais toutes les qui vous allez voir un statut qui va s'élargir, et à côté de cela, l'intensification des contrôles. C'est donc la loi pour le plein emploi hein, qui a été adoptée le 18 décembre 2023, mais l'application de celle-ci avait été repoussée d'un an, donc ça y est, on y est, janvier 2025. Plus de 1,5 million de personnes privées d'emploi, c'est le terme, seront automatiquement inscrites à France Travail. France Travail qui entend coordonner l'ensemble des organismes d'insertion sociale. Toutes ces personnes doivent notamment désormais signer un contrat d'engagement, un contrat qui va préciser des objectifs d'insertion sociale et professionnelle. Par exemple, dans ces contrats, 200 000 jeunes qui sont suivis par les missions locales devraient basculer vers France Travail, mais aussi les dizaines de milliers de personnes en situation de handicap qui sont accompagnées par Cap Emploi, et surtout, et aussi les 1,3 million de bénéficiaires donc du RSA, le revenu de solidarité active, mais aussi leurs conjoints, puisque l'allocation dépend du revenu du couple. On est à 565 euros de RSA pour une personne seule et 848 euros si les deux conjoints sont au RSA. Donc cette date du 1er janvier, eh bien, c'est peut-être celle d'une véritable bombe sociale à retardement à voir, hein, pour les personnes sans emploi, comme pour les agents de France Travail d'ailleurs. Si on s'intéresse à ceci, Florence Lefebvre, qui est justement élue syndicale chez France Travail, explique qu'on bourre la machine à marche forcée jusqu'à ce que ça craque. À moins de 15 jours de l'échéance, elle s'exprimait ainsi, donc courant décembre, et les conseillers de France Travail se demandaient comment ils allaient bien pouvoir gérer cet afflux massif d'un nouveau public en insertion. Des mouvements syndicaux ont d'ailleurs eu lieu, des mouvements de grève, à la fin de l'année dernière. Première question, auront-ils des moyens supplémentaires pour les accompagner? Eh bien là-dessus, on est sur un gros flou artistique, résume Florent Lefebvre, pardon, qui est également élu au comité social et économique, au CSE de France Travail. Les agents savent simplement, dit-il, qu'ils devront faire avec moins d'effectifs, puisque 500 emplois équivalents temps plein devraient être supprimés sur le projet de finances 2025. Et oui, tout ça se télescope. France Travail prévoit ainsi d'économiser l'équivalent de près de 3000 postes d'ici 2027. Les conseillers font donc moins d'accompagnement que de contrôle aujourd'hui. C'est ce que déplore Agnès Aoudet. France Travail prévoit en effet de tripler les contrôles annuels de recherche d'emploi. On était à environ un chiffre de 500 000 sur les années dernières. On devrait passer à 1,5 million de contrôles pour 2027. Et avec cela, chaque nouvelle réforme se manifeste par une hausse des conflits avec les usagers, commente aussi un syndicaliste, Lagdar Ramdani, de la CGT Pôle emploi Bretagne, avec notamment insultes, menaces et agressions à la clé. Alors pour ce qui est des personnes qui sont elles, ciblées par ces contrôles et ces nouvelles réformes, le bilan est plutôt nuancé, puisqu'en 2024, il y a déjà eu des expérimentations sur ces 15 heures hebdomadaires obligatoires. Plus de 70 000 personnes réparties sur 49 départements ont ainsi pu, en avant-première, déjà expérimenter cette nouveauté l'année dernière. Un rapport final a été publié par le ministère du Travail et il revient sur cette contrainte administrative de traçabilité des 15 à 20 heures qui est difficile à justifier et qui conclut ce rapport peut affecter la relation de confiance avec les bénéficiaires. En pratique, l'atteinte de cet objectif est inégale, poursuit ce rapport, notant tout de même que le renforcement de la confiance en soi et de la capacité à agir sont très souvent observés chez les allocataires. Pour l'analyse donc, de cette année d'expérimentation, du côté du Secours catholique, où on est en première ligne face aux questions de grande pauvreté. Les résultats aussi ont été assez spectaculaires pour eux. Et il résume cela en disant qu'en un an, le taux de non-recours au RSA, donc le nombre de gens qui n'ont pas demandé leur RSA alors qu'ils avaient le droit, ce taux a augmenté de 10,8% dans les départements qui expérimentaient cette réforme, alors que dans les autres départements, il avait diminué de 0,8%. Cette association affirme ainsi que la réforme est contre-productive et elle s'inquiète d'une hausse de la pauvreté. Le Secours catholique pointe aussi d'ailleurs un risque de travail gratuit qui, en tirant le marché du travail vers le bas, eh bien, fait réduire les salaires de tout le monde. Il explique par exemple un exemple tout simple avec le maire d'une petite commune qui a prévu pour des raisons budgétaires que désormais l'entretien du cimetière serait fait gratuitement donc par des allocataires du RSA, alors qu'auparavant il était effectué par du personnel communal et donc rémunéré. Si on s'intéresse aussi au département du Nord, avec un conseil départemental géré par la droite, on y a expérimenté cette réforme déjà de manière assez zélée et musclée. Ainsi, en cas d'absence à un rendez-vous, un allocataire du RSA voyait 80% de son RSA suspendu. Pour retrouver la dignité et le chemin du travail, d'ailleurs, des coachs emploi assuraient au sein des Maisons du Nord emploi le suivi intensif de 3000 allocataires. Résultat de ce que certains appellent plutôt une chasse au précaire, plus de 12 000 suspensions de droits ont été effectuées sur environ 100 000 allocataires, selon les chiffres de France 3, donc dans le Nord. Des gens sanctionnés vont disparaître des radars, d'autres perdent leur logement et sombrent pour beaucoup dans l'exclusion, constate le syndicaliste. Ce qui a obligé, dit-il d'ailleurs, certains de ses collègues à aller faire du travail de rue ensuite, en aval, donc dans l'espoir de repêcher les personnes qu'ils suivaient et de les remettre un petit peu sur les rails. Cette réforme, donc le but, c'est d'occuper les allocataires du RSA tant qu'il et elle ne retrouvent pas un travail, et ce, quel qu'il soit. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15 ou 20 heures si on est concerné? Eh bien, de ce que laisse entrevoir la communication gouvernementale et les quelques retours d'expérience, il s'agirait de multiplier les démarches de recherche d'emploi, de participer à des ateliers de rédaction de CV ou de coaching, de suivre des stages, des formations ou des cours de langue, voire pourquoi pas d'obtenir son permis de conduire ou des rendez-vous médicaux. En tout cas, les témoignages des personnes qui ont expérimenté ce RSA conditionné soulignent notamment la difficulté des déplacements, le coût non défrayé de ceux-ci ou le temps passé à justifier de leurs activités. Et, petite question suspension aussi, quid qu'adviendra-t-il des auto-entrepreneurs ou des agriculteurs qui, pour souvent, cumulent aussi activités laborieuses et RSA? À ce sujet, je vous avais évoqué avant les vacances l'occupation du conseil départemental de l'Aveyron, justement par des agriculteurs concernés par cette réforme. La comptabilisation, en plus de ces heures, donc de ces fameuses 15 ou 20 heures hebdomadaires, va s'avérer très lourde également pour les conseillers. C'est ce que relatait aussi l'évaluation rendue du ministère du Travail, qui reconnaît qu'en l'état, prendre une sanction à partir des données actuelles présenterait des risques importants d'erreur et d'inégalité de traitement. Ce qui importe, se désole Florent Lefebvre donc pour la CFDT, c'est d'afficher un taux de sortie du chômage, et ce, quelle que soit la qualité de l'emploi. Voilà, c'était une analyse, une interview piochée sur Bastamag avec des compléments que j'ai trouvés chez TF1.
Oh, les rebolles, tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Allez, on va se quitter là-dessus pour ces premières nouvelles. Ça fait déjà une bonne remise en main. Quand même, deux, trois petites infos astronomiques, puisque pour 2025, il y aura un programme très chargé pour la Lune. J'ai pu lire en effet dans une chronique cosmologique que la Lune aurait... Il y aurait une pleine Lune par mois déjà, ce qui n'est visiblement pas le cas chaque année, dont deux éclipses partielles du Soleil et deux traversées de l'ombre terrestre par la Lune. Par exemple, le 14 mars... Le Soleil, la Terre et la pleine Lune s'aligneront dans l'espace. On aura donc une éclipse totale de la Lune, qui sera partiellement visible en France métropolitaine, plutôt côté est, ouest en Bretagne. Et aussi, ça sera le 29 mars toujours, qu'une éclipse partielle du Soleil sera aussi observable en France métropolitaine et dans une large portion de l'Europe. Tout cela s'agira en quelque sorte d'une répétition générale avant l'éclipse de soleil exceptionnelle du 12 août 2026. Ça, on en reparlera, on a le temps d'ici là, mais une éclipse de soleil totale au nord de l'Espagne et partielle jusqu'à plus de 99% au sud-ouest de la France métropolitaine. Et à noter aussi qu'en septembre, il y aura aussi une éclipse totale de la Lune, ça sera environ autour du 7. Mais j'aurai le temps, si j'ai pas oublié d'ici là, de vous en reparler. Et puis bah voilà, on va se quitter là-dessus.
Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr.
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra.
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Allez, tous sous la couette, on profite de l'hiver et on se donne rendez-vous jeudi pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.